hors champ. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous ce soir en compagnie de Didier Blonde. Je n'ai jamais pu dire mon nom. Est-ce bien le mien ? Je n'en suis pas toujours sûre. Il me semble parfois que c'est celui d'un homonyme. Il faut que j'accommode ma vision à ce nom, que je l'articule mentalement pour essayer de le comprendre, comme si je ne me reconnaissais pas du premier coup d'œil dans un miroir qui me surprend à l'improviste. J'ai su si tard qu'il était à moi. C'est ce que vous écrivez, Didier Blonde, dans un de vos ouvrages qui s'intitule « Faire le mort ». Et aujourd'hui, ce nom, il est à vous ?
Il faudra peut-être que j'y consacre plus de temps. Effectivement, ce sont des questions que je me pose de façon assez récurrente dans presque tous mes livres. Reconnaissez que ce n'est pas un nom quand même très, très courant et facile.
Moi, je trouve que c'est un beau nom.
Merci. Mais c'est vrai que souvent, on veut en faire un blondé, blond, le blond, mais blonde comme ça, un nom féminin, qui est un nom commun. J'ai appris récemment, d'ailleurs, par le livre de Lydie Dattas, que ça désignait la lumière au XVIIe siècle, ce qui est quand même très, très beau. Au Québec, c'est aussi un nom courant pour désigner, d'une façon générale, la petite amie de quelqu'un, etc. Oui, c'est un nom, c'est vrai, sur lequel souvent j'ai une petite difficulté à le faire véritablement mien. Et c'est vrai que sur un livre, il y a toujours cette impression un peu de dédoublement, comme s'il ne m'appartenait pas totalement. Mais je l'apprivoise peu à peu.
Bah, vous aimez les fantômes, donc peut-être ne pas faire corps avec son nom, c'est peut-être une des raisons de l'écriture.
Oui, tout à fait. Et puis c'est un nom de toute façon qui ne m'appartient pas totalement, qui est celui d'une famille qui renvoie d'abord à celui qui me l'a donné, au père, hein, et à une lignée comme ça. À une époque, peu avant le décès de mon père d'ailleurs, ce qui ne m'avait jamais effleuré, j'ai éprouvé le besoin d'essayer de remonter un tout petit peu la généalogie.
Bah vous faites depuis des décennies les généalogies d'inconnus. Il était normal qu'un jour vous puissiez faire la vôtre.
Oui, donc j'étais.
Mais vous avez mis du temps à faire la vôtre.
Oui. Mais là, c'est remonté des générations. J'étais tout à fait surpris de voir qu'il y avait, et c'était un peu réconfortant, quand même bien des blondes qui m'avaient précédé.
Et ce père dont vous parlez dans pratiquement tous vos ouvrages.
C'est vrai, vous avez remarqué, il y a souvent des allusions. J'y accorde peu d'espace, mais.
C'est un motif récurrent.
C'est essentiel, oui. Souvent sans préméditation, mais c'est vrai que partant là sur le dernier, sur un sujet qui apparemment n'a strictement rien à voir, j'ai presque inéluctablement été conduit à revenir à lui.
Vous ne parliez pas avec votre père ?
Peu, mais enfin bon, je pense que c'est quelque chose de général. Et puis il était quasiment sourd, donc ça ne facilitait pas la communication. Mais il y a un langage qui passe aussi par le regard, les silences, la proximité. Et c'est vrai qu'on s'est mis beaucoup, beaucoup à se parler depuis sa mort. Hein. C'est pas simplement une formule un peu rhétorique, une métaphore. Je poursuis un dialogue avec lui. C'est vraiment un dialogue important, enfin, depuis maintenant quelques années. Et contrairement à ce qu'on peut croire, On ne fait pas dire ce qu'on veut non plus. On dit c'est facile de faire parler les morts. On leur fait dire ce qu'on attend un petit peu de non, non, non. C'est souvent difficile. Et même c'est lié à l'écriture. Pour le dernier, je me souviens qu'il me disait non, non, ça tu ne peux pas dire ça. Il faut oui, ça d'accord. Voilà, donc j'ai besoin de l'entendre. Il vient souvent frapper. J'entends sa voix beaucoup maintenant, c'est vrai.
Vous arrivez à convoquer les morts ?
Ils viennent souvent tout seuls. Hein. Alors il y en a, effectivement, je vais à leur devant, ce que je raconte souvent d'une façon plus générale, beaucoup à travers ces figures, un peu de figurants, de disparus, à travers des images, celle du cinéma muet qui m'a beaucoup, beaucoup absorbé pendant des années. Et comme ce sont des films par définition muets, il faut bien faire parler ces figures. Donc là, oui, je pratique cet art un peu qui est celui de faire parler les morts. Oui. Vous savez, tout le monde a fait cette expérience, je répète, en sortant d'une projection d'un film muet, on est convaincu de les avoir entendus parler. Si vous posez des questions à des gens sur tel ou tel film un peu ancien, ils seront parfois... ils n'arriveront pas à dire si c'était un film muet ou un film parlant. Hein. Avec le recul, on entend véritablement parler. Donc il suffit de se mettre à l'écoute. Hein. On est un petit peu leur souffleur, leur ventricloque. Donc oui, tous ces morts-là, j'essaye de les faire parler. Et puis il y en a qui sont beaucoup plus proches, évidemment. Nous avons nos morts, nos propres fantômes. Et cela, les parents, la famille, les amis proches, et cela, il n'y a pas besoin de les convoquer, hein, ils viennent, ils reviennent, ce sont des revenants.
Est-ce que c'est parce que vous avez été un enfant mutique que vous avez découvert que l'écriture était un mode d'expression de ce royaume des ombres avec lequel vous conversez depuis longtemps ?
Oui, c'est vrai que je pense très très longtemps, et je ne suis peut-être pas tout à fait terminé, j'ai des difficultés avec... j'ai eu beaucoup de difficultés avec la parole. Il y avait quelque chose où qui nous trahissait peut-être trop vite, qui était peut-être infidèle, et puis pour simplement des raisons, disons, de timidité. Hein, je préférais être spectateur. Et l'écrit, que ce soit la lecture, qui a été pour moi un immense secours. Hein. Et puis l'écriture, bien sûr, sont venues compenser peut-être ça. Oui.
Vous êtes toujours prof de lettres ?
Oui, oui, oui.
Et vous aimez ça ?
Beaucoup. Oui, beaucoup. J'ai toujours aimé, je dis j'ai toujours parce que maintenant j'arrive quand même un petit peu au bout, en fin de carrière, j'ai toujours aimé passionnément mon métier. Je pense que c'est d'ailleurs... la première qualité d'un professeur, quelle que soit sa discipline. Mais évidemment, bon, j'ai une discipline, disons, reine, qui sont les lettres. C'est d'abord d'aimer passionnément la littérature et aimer passionnément essayer de transmettre ça. Le reste vient facilement, presque naturellement.
Mais pour pouvoir enseigner, il faut pouvoir parler.
Voilà. Voilà.
Donc ça vous a obligé à parler ?
Ça m'a obligé, oui. Je raconte ça. C'est vrai que les toutes premières fois, j'étais... presque terrorisé. Je raconte ce tout premier cours que j'ai fait, qui a été presque une initiation, comme pour esquiver un petit peu la difficulté. Pendant le premier cours, j'ai pris un accent, comme si c'était une protection à ce moment-là, que je me permettais d'être un autre, un peu à distance. Et puis, très vite après, c'est devenu très très bien. Et en cours, mais c'est parce que je ne parle pas de moi, je pense que c'est très facile. Non, là j'ai une aisance, mais enfin bon, j'ai appris peu à peu de toute façon à maîtriser ça, et puis ça se passe très bien.
Êtes-vous sûr que vous êtes vous-même ? Parce que dans un autre livre, Que faire le mort, dans Les fantômes du muet, voici ce que vous écrivez, au chapitre Le nom de l'homme. Chacun se débrouille comme il peut avec son nom, même si l'on ne s'y reconnaît pas toujours, c'est notre lot, l'héritage paternel par excellence, le premier mot qu'on apprend à écrire dans une calligraphie appliquée, l'abécédaire de toute une vie. Je sais ce que c'est que de porter un nom commun qu'on croit presque toujours avoir mal entendu? Pourquoi veut-on sans cesse le corriger ou l'amputer d'une syllabe en lui ajoutant un accent superflu? Il suffit d'une lettre pour qu'il change de figure. Les écoliers aiment se bagarrer à coups de sobriquet. Plus qu'à un autre, peut-être, il m'a donné une impression de fragilité quand on m'appelait, le sentiment d'avoir soudain l'âme mise à nu.
Oui, c'est vrai. Je tourne autour de ça. Peut-être que toute sa vie, on passe à essayer à tourner autour de son nom, hein, comme s'il y avait une forme de déterminisme, peut-être. Soit on s'y confronte, soit on passe à côté, soit on le revendique, soit on le dissimule, des pseudonymes. J'ai souvent été très attentif et étudié les noms des autres. Baudelaire, par exemple, qui a eu souvent les mêmes difficultés. Là, je l'écris aussi à propos des films muets qui sont très intéressants pour ça, puisque c'est une des particularités des films muets, c'est qu'il n'y a pas de... les personnages ne sont pas individualisés, au moins au début, mais enfin, presque toute la période du muet, c'est très rare, les noms qui portent des personnages qui portent des noms. Hein. Donc ce sont des noms un peu génériques, l'homme, la femme, etc., ou des fonctions. Je suis très, très intéressé par toutes ces questions d'anonymat, au fond, oui, comme si mon nom était... J'aurais aimé que mon nom soit un peu le nom de l'anonyme.
Vous avez inventé un type d'écriture qui n'est ni du récit, ni du roman, et pourtant certains de vos textes s'intitulent roman, et on ne sait jamais s'il y a des fragments d'autobiographie, parce que vous réussissez toujours à semer le doute tout en utilisant les mêmes trames obsessionnelles, justement de cette lisière entre la vie et la mort, avoir un nom, ne pas en avoir, être un figurant dans les films muets, mais figurant peut-être de sa propre vie. Et dans un de vos textes qui s'intitule « Faire le mort », il y a ce personnage, je ne sais pas si vous l'avez inventé ou s'il vous ressemble, ou si même vous avez épousé à un moment de votre existence cette profession, mais qui est justement celle d'écrire pour les autres, d'être un nègre.
Voilà, ce qu'on appelle un nègre, qui est aussi un double. Oui, je l'ai fait pour un livre.
Ah, vous l'avez fait ?
Oui, pour un livre, un roman policier, il y a très longtemps. J'avais un ami proche qui a fait ça pendant de nombreuses années. Hein, donc, il y a toujours des éléments un peu autobiographiques. Et puis, je m'inspire de figures. Et puis, il y a une part d'invention. Hein. Vous avez raison de dire, en tous les cas, que je suis... À la frontière de plusieurs genres. Il y a effectivement un peu de récit, un peu de, si ce n'est de roman, de romanesque à l'intérieur, en tous les cas, d'autobiographie. J'étais à Bonne École avec JB et la collection dans laquelle il m'a accueilli, qui est.
Alors JB, c'est JB Pontalis. JB Pontalis, donc cet écrivain, très grand écrivain, qui s'est révélé sur le tard d'ailleurs, hein,
oui.
Qui a été professeur comme vous. Professeur de lettres en même temps que
de philosophie
en même temps que Jean-Paul Sartre, et qui a été donc ce grand éditeur de cette collection L'un et l'autre. Nous allons l'écouter à propos de son goût pour la philosophie et la psychanalyse. C'était le 1er mars 2010.
C'est vrai que nous allons un peu plus tard que le début du lycée, j'ai été d'abord très attiré par la philosophie. Donc j'ai fait des études de philosophie, j'ai eu la chance, comme vous le savez, d'avoir Sartre comme professeur, au moins pendant un trimestre au lycée Pasteur. Et puis je me suis cru poète, j'ai écrit de très mauvais poèmes, plus ou moins inspirés de Mallarmé. J'ai retrouvé tout ça récemment en fouillant dans mon grenier. Et puis est venu le temps de la psychanalyse, dans les années 53-54. Je suis devenu donc psychanalyste, mais là aussi, c'est pas une identité stable. Et puis maintenant, quoi, 20, 30 ans, un goût ancien pour la littérature, mais c'est ranimé. Et donc, j'ai écrit beaucoup de livres qu'on peut qualifier de littéraires. Donc, si on voulait vraiment résumer en tranches, j'aime pas beaucoup ça, sa propre existence, il y aurait une période philosophie, une période psychanalyse et une période littéraire. Mais la période littéraire faisait écho à ce qui est assez commun, à mes premiers goûts. Car comme tous les adolescents ou les jeunes gens, j'avais envie d'écrire et Ça s'est bizarrement mis un peu en sourdine pendant de longues années pour revenir quand j'avais à peu près la cinquantaine. Je suis un écrivain tardif.
Voilà, la voix de J.B. Pontalis qui résonne très fortement à l'intérieur de nous. Didier Blonde, est-ce lui qui vous a donné le courage? Je dis le courage, c'est un mot comme ça qui peut paraître un peu vaniteux, mais de pouvoir publier, parce qu'on sent bien que la publication doit être une épreuve pour vous, même si nous, vos lecteurs, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à vous lire. On a l'impression que rentrer dans la lumière de la publication, c'est peut-être pas votre truc.
Si, enfin, quand même, je ne suis pas masochiste du tout. Non, non, il y a une satisfaction quand même à publier. Oui, en tous les cas, JB, comme on l'appelait hein, entre nous et chez Gallimard, JB Pontalis, ça a été une rencontre décisive de ce point de vue. Décisive. Il m'a accueilli dans sa collection très particulière, En Marge. C'est un mot qui lui ressemble bien d'ailleurs, En Marge. Il écrit plusieurs livres avec ce titre, En marge des genres, qui correspondait tout à fait à ce que, peut-être inconsciemment, j'avais envie, besoin de faire. Et il procédait avec une très grande amitié, discrétion, mais il savait très bien comment y faire pour pousser progressivement à aller plus loin, quoi, sans s'imposer du tout. Et à l'intérieur de l'écriture d'un livre, ou bien d'un livre à un autre, je l'entends encore tout le temps me dire, bon, allez, il faut approfondir, là tu, de temps en temps plus directement, tu te livres pas assez, tu te mets pas assez en jeu, il faut s'exposer. Alors il y a des stratégies pour faciliter cela comme lui les pratiquait. Hein. Par exemple, on peut très bien être très très personnel en écrivant à la troisième personne, hein, ou bien prendre une autre figure. Voilà, ce sont des petites bribes, mais tous ces livres littéraires sont parsemés de ce qu'on appelait une sorte d'autobiographie un peu en biais, oblique. Et je pense que c'est ce que je fais aussi, ce que je fais aussi maintenant. Ça me convient de mieux. Je serais incapable d'écrire une autobiographie, bien que lui l'ait fait. Son formidable livre qui est L'amour des commencements. Mais après, il y revient de façon très, très émouvante, sensible, personnelle. Et on voit bien ces éléments un peu récurrents de livre en livre dans lesquels il se livre.
Voici ce que vous écrivez à propos d'un personnage que vous avez inventé, mais pas tout à fait, Didier Blonde. J'écris à mots couverts. Mon écriture est blanche, transparente. C'est celle de tout le monde, de l'un ou de l'autre, ceux dont j'ai endossé la panoplie à tour de rôle et qui ont signé à ma place leur mémoire. Je ne suis qu'une main postiche qui arrange leurs souvenirs, les recomposer pour leur donner une vie en 300 pages au format de la collection. On me cache, je n'ai pas de nom. C'est peut-être pour cela que je n'écris qu'au crayon, sans effort. Il suffit de se laisser glisser autour du modèle, de le décalquer. Il s'imprime tout seul. Moi, je m'efface. Je ne suis qu'un brouillon, comme ma vie. Je n'ai pas d'histoire, rien à raconter. Je suis un écrivain fantôme, rien qu'un caméléon, l'ombre d'un corps qui ne m'appartient pas. Donc ça, c'est dans ce livre « Faire le mort ». C'est le fameux personnage dont nous parlions tout à l'heure, de ce nègre qui écrit des livres qui sont les vies des gens très connus, lui qui est un total inconnu, mais vous, vous passez votre vie, en tout cas votre vie d'écrivain, à essayer de ressusciter des vies d'inconnus, que ce soit les figurants du muet, du cinéma muet, ou que ce soit cette femme que vous allez rencontrer, si j'ose dire, dans un cimetière, parce que vous aimez beaucoup les cimetières, Leila Mahi, que vous allez rencontrer en observant sa tombe. Est-ce oui. que l'écriture, c'est une remémoration? Est-ce que c'est une individuation?
Écoutez, là, en tous les cas, c'est la position du narrateur, c'est la position de l'écrivain, qui est peut-être aussi un fantasme un peu adolescent, d'être un peu partout invisible, présent partout invisible, en même temps, qui me convenait très très bien, c'est vrai, qui est attaché pour moi, là aussi, à des figures récurrentes auxquelles je me suis beaucoup intéressé, qui sont ces figures de romans populaires, des personnages masqués, qui sont en même temps cette invisibilité, cette ombre dans laquelle ils vivent, c'est aussi une toute-puissance. Arsène Lupin, Rocambole, Fantômas. Je trouve que c'est une bonne métaphore, oui, de ce qu'est pour moi l'écrivain, effacé et en même temps celui qui permet de ressusciter, faire apparaître, dessiner les personnages, les ombres des personnages qui viennent comme ça souvent de la nuit ou du hasard de rencontres.
Enfin, des rencontres. À propos de votre écriture et de vos livres, Didier Blonde, les rencontres, elles se font dans le noir, si j'ose dire, c'est-à-dire dans l'antre de cette salle qui est une salle de cinéma, ou la cinémathèque que vous avez beaucoup fréquentée pour redécouvrir le cinéma muet. Ça se fait aussi au hasard d'une promenade dans un cimetière. Donc les rencontres, c'est les rencontres avec des... On parlait de ce mot de fantôme, avec des présences qui ne sont plus là. Et l'écriture, c'est la résurrection de la présence, de cette absence qui va devenir présence.
Oui, donc à travers le cinéma muet, effectivement. La salle de cinéma, c'est une sorte de temple un peu magique. Hein. On voit... Là, ces figures, c'est très difficile à définir. Ça m'intéresse beaucoup parce qu'à la fois, il y a une réalité de ces personnages, réalité ancienne. Ils ont vécu véritablement. C'est en cela qu'ils sont très, très émouvants. Et en même temps, ils ont disparu. Et ils sont maintenant tombés dans l'anonymat, même si certains étaient connus. On ne fait plus la différence entre les grandes stars de l'époque et puis ceux qui sont de simples figurants anonymes. Donc, c'est vrai que je suis obsédé par ce thème que je partage avec d'autres, qui est la résurrection des disparus. C'est peut-être une façon de... un combat perdu d'avance, mais quand même, de lutter contre la mort, d'essayer de les arracher à l'oubli. Tous ces personnages du cinéma muet, et puis d'autres, hein, personnages... encore une fois, familiaux, d'amis, tous ces personnages qui ont été bien vivants. Et je pense que tant qu'on les nommera, on parlera d'eux, ils resteront encore vivants. C'est-à-dire écrire sur eux, les nommer, pour certains, c'est une façon de les arracher à l'oubli. Et c'est vrai que ça, c'est une... Je ne me résous pas à les laisser disparaître totalement. Donc l'écriture, c'est une façon de les faire revenir.
Nous allons écouter la voix de Patrick Modiano. C'était au micro de Vincent Joffe, le 1er octobre 2007, à propos des thèmes de ses romans et de son intérêt pour Paris. Car quand on vous lit, effectivement, mais je ne dois pas être la première à vous le dire, il y a une sorte de parenté amoureuse d'une géographie et d'une cartographie de Paris. On écoute la voix de Modiano.
Moi, j'ai toujours eu l'impression, c'est d'écrire toujours la même chose, quelquefois en revenant sur un détail ou en modifiant un détail dans un livre, ou même inconsciemment en répétant sans que je m'en rende compte des choses qui étaient déjà dans les livres précédents. Oui, c'est une sorte de répétition, de correction, de... Alors évidemment, au bout, c'est le même livre, c'est une sorte de même livre, mais fragmenté en fait. On est prisonnier de son époque aussi, c'est pour ça que j'ai toujours une nostalgie pour les romanciers du siècle dernier qui pouvaient
brasser le monde.
Oui, oui, oui.
Et vous, votre monde reste à Paris et reste entre, on va dire... les années 40, les années 60.
Oui, c'est souvent à Paris, c'est c'est évidemment des impressions très fortes que de Paris, de mon enfance ou de mon adolescence, parce que c'est l'âge évidemment où les choses vous s'imprègnent le plus violemment sur une pellicule qui est encore vierge. Mais en même temps, ce Paris est devenu complètement intérieur et complètement, j'allais dire, imaginaire, puisque de toute façon, c'est un Paris qui n'existe plus vraiment. Mais c'est un Paris qui s'est, petit à petit, avec le tamis de la mémoire, ça s'est... un peu intériorisé, c'est devenu un Paris imaginaire et complètement intemporel. Alors évidemment, quelquefois, il y a des détails qui peuvent paraître un peu déçus. Par exemple, des numéros, je cite des numéros de téléphone, Auteuil 1528 ou des choses comme ça. Mais en fait, c'est plus la sonorité poétique de la chose plutôt que le désir de reconstituer une époque. Parce que j'aurais pu dire à la place d'Auteuil, Tulipe 2348 ou... C'est plutôt les éléments qui peuvent paraître restituer une époque. Je les utilise uniquement pour leur consonance poétique, mais pas du tout. Ils deviennent intemporels. Alors évidemment, d'autant plus que les gens de 20 ans maintenant ne savent pas qu'il y avait des numéros comme ça. Alors ils se disent que c'est purement inventé.
Alors on vient d'entendre la voix de Modiano et effectivement, ces numéros de téléphone peuvent figurer aussi dans certains de vos livres, Didier Blonde. Peut-être il y a une différence entre Modiano et vous, c'est que vous, on a l'impression, quand on vous lit et que vous retrouvez un lieu où habitait un des personnages dont vous voulez tout savoir, parce que vous voulez tout savoir dès que vous vous intéressez à quelqu'un qui peut-être a sombré dans l'oubli, même s'il était très connu, ou qui était quelqu'un d'anonyme que vous voulez justement faire apparaître en pleine lumière, ben, quand vous trouvez l'immeuble où il habitait, alors là, tout d'un coup, il y a un sentiment de très grande réalité.
Oui, oui, bien sûr. Alors, je me sens évidemment très, très, très proche de Patrick Modiano, pour qui j'ai une immense admiration. Comme lui, j'ai besoin de lieux très, très précis, c'est ça.
C'est les mêmes quartiers de Paris que vous aimez,
oui,
d'ailleurs.
Souvent, oui, c'est vrai. Et donc, le numéro de téléphone ou l'adresse, qui était pour moi aussi... un champ d'investigation considérable, hein, puisque je suis obsédé par les adresses.
Alors, vous avez même fait un livre qui s'intitule « Carnet d'adresses ».
Carnet d'adresses et une sorte de dictionnaire des adresses des personnages de fiction. Parce que ça a un statut... voilà, je suis obsédé. Quand je lis, depuis toujours, je m'arrête sur les adresses et les numéros de téléphone. Alors, c'est vrai que l'œuvre de Modiano, pour ça, est très, très riche. Parce que c'est à la fois un certificat d'existence, d'authenticité, ce qu'on appelle un effet de réel. Et derrière ces numéros de téléphone, derrière ces adresses, se cachent souvent... Bien des mystères, bien des secrets. Beaucoup sont cryptés. Donc il est tout à fait passionnant d'essayer de pousser la porte du numéro pour essayer de voir, de lire dans les blancs, dans les arrière-cours, dans les coulisses. C'est très très riche parce que c'est là qu'au fond se passe le contact presque indécidable entre le réel et la fiction. Et on bascule, on hésite, on est entre l'un et l'autre. Et ça, c'est ce qui me passionne. Puis comme il le dit, il y a un effet aussi poétique, hein, des numéros de téléphone anciens, des adresses. Il l'a dit, moi j'ai énormément pratiqué ça pendant des journées, des mois, un annuaire, les Didot Bottin du 19e siècle, qui permettent de retrouver comme ça des noms... qu'on cherche ou parfois qu'on ne cherche pas, c'est très poétique. C'est très, très poétique, toutes ces listes de noms. La liste, d'ailleurs, c'est un genre littéraire. Hein. Pratiquer beaucoup d'écrivains, c'est un terreau pour l'imaginaire extraordinaire.
Qui êtes-vous pour vous permettre d'essayer de ressusciter certaines personnes ? Là, je pense plus particulièrement à votre dernier livre, « Les Lamaïs ». Est-ce que vous allez donc découvrir dans ce cimetière du Père Lachaise, parce que l'épitaphe sur la tombe vous a troublé, à partir de là commence une recherche éperdue. Est-ce que vous êtes un fan ? Non, parce que vous ne la connaissiez pas. Est-ce que vous êtes un admirateur ? Non, parce que vous ne l'avez jamais vu. Et peu importe l'image. Donc, qu'est-ce qui vous fait, si j'ose dire, courir mentalement et psychiquement pour essayer de trouver les mots et de la faire advenir à travers les pages d'un livre et la faire devenir un personnage de papier, au fond.
Oui, alors c'est d'abord une image, quand même.
Oui, elle était belle.
Ah oui, non, mais cette image, elle est quand même très, très, très étrange, très insolite. Et cette femme, elle est très belle. Et dans le cadre du columbarium du Père Lachaise, il y avait quelque chose de tout à fait intriguant. déjà en soi, c'est une grande image, contrairement aux médaillons funéraires qui sont souvent utilisés. Là, elle est beaucoup plus grande, elle a un format carré. Elle m'a, quand je l'ai vue, immédiatement fait penser à une star du cinéma muet, parce qu'elle y a la date de son décès, 1932. Donc, tout à fait. Star que j'ai...
Elle était pour vous, elle vous attendait dans ce cimetière du Père Lachaise.
Oui, moi et puis d'autres, je me suis rendu compte, il n'y a pas que moi, il y a d'autres admirateurs, mais c'est vrai que ça a d'abord été ça. Et puis il y a un côté très très sensuel, presque indécent, dans sa pose, son attitude.
Elle est morte jeune.
Et elle est morte, on pouvait l'imaginer, même s'il pouvait y avoir là peut-être une mystification à partir de la photo. Est-ce une photo qui a été faite vraiment tout à fait à la fin ou plus ancienne, puisque, autre mystère, il n'y a pas sa date de naissance. Donc ça aussi, c'est très intriguant. Pourquoi ? Encore une fois, ça ne peut pas être par simple coquetterie féminine. Quel âge avait-elle réellement? Pourquoi il n'y a pas cette date de naissance? Bref, là, il y avait un mystère, un secret qui m'attire nécessairement. Modiano lui-même disait, tout être a un secret, un mystère. Donc, c'est ça qui est attirant, comme s'il s'agissait de lui redonner cette moitié de vie qui lui manquait aussi. Donc c'est d'abord parce que j'ai été au fond hypnotisé par ce regard qui est fascinant, hein, qui nous fixe, qui fixe tout le monde. Et pourquoi c'est devenu l'objet d'une quête? Parce que, contrairement aux enquêtes que j'ai faites dans les livres précédents, je pense à L'Inconnu de la Seine, je pense à Suzanne Grandet, une star du cinéma muet. Alors, bien sûr, maintenant, plus personne ne les connaît. Mais je savais, en me lançant dans ces enquêtes, qu'il y avait une masse de choses à consulter, évidemment. Toutes les archives chez Gaumont, j'ai pu voir des films de Suzanne Grandet, voilà, les textes qui ont été écrits sur L'Inconnu de la Seine. Mais là, précisément, il n'y avait rien, quoi. C'était parce qu'il y avait rien ou presque rien, si ce n'est le désir qu'elle avait éveillé en moi, que je me suis lancé dans l'histoire. Je me suis dit, là, il y a juste une image. Tout de suite, j'ai vu que je n'obtiendrais pas on refusait de me donner des informations. C'était passionnant pour moi parce que c'était une enquête qui nécessairement devenait réflexive, là. Plus que le résultat de l'enquête, c'était le sujet véritablement. C'est pour ça que je l'ai fait figurer sur la couverture. C'est l'enquête elle-même qui m'a pris des années et des années. Et j'ai rencontré cette image une première fois il y a très 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 longtemps, hein. Il y a plus d'une trentaine d'années. Donc elle est restée en sommeil pendant des années jusqu'à ce que je décide véritablement de mobiliser toutes mes forces et devenir un détective pour essayer d'en savoir plus.
Mais vous êtes un vrai détective, parce que jusqu'où vous permettez-vous d'aller? Vous n'avez pas de limite. Quand une personne vous intéresse, là, Léla Mahy, vous ne pouviez pas la retrouver et vivre avec elle. Mais dans certains de vos bouquins, quand vous parlez du muet, quand vous arrivez à retrouver des figurants du muet, et là, vous êtes prêt à tout, à rentrer dans les appartements, à nouer des relations, à vous installer au domicile de la personne que vous avez réussi à retrouver, à lui apporter les repas, à habiter chez lui, enfin, bref, jusqu'au bout, quoi.
Oui, parce que je avant même d'écrire, hein, c'est vrai que je peux faire un travail d'enquêteur, hein, j'assume tout à fait je suis passionné des romans policiers pendant des années, donc à travers Paris, qui est une de mes passions, trace des itinéraires. Et puis je vais frapper aux portes et j'ai souvent, presque toujours, été très surpris de voir les gens très très accueillants qui se prenaient aussi au jeu et qui, j'obtenais souvent peu d'informations, mais ma passion était communicative et beaucoup me disaient, vous me direz ce que vous avez trouvé.
Oui, mais comment démêler le vrai du faux? Parce que vous cherchez la vérité,
oui, absolument.
Mais ceux... Oui, la vérité. Mais ceux et celles qui vous répondent sont peut-être dans un monde de fiction ou dans un monde de perte de mémoire qui vous éloigne peut-être de cette vérité. Mais ça vous plaît parce que ça fait carburer. Votre machine littéraire.
Oui, et puis c'est leur vérité, après tout. Hein. L'imaginaire, c'est aussi une vérité. Alors, c'est vrai que je me tiens, des informations que je donne tout le temps, elles sont scrupuleusement vérifiables, authentiques. Tout est vrai, d'une certaine façon, dans tout ce que je mène comme enquête, scrupuleusement. Ça, j'y tiens absolument. Il faut absolument que j'aie ce point fixe. Mais après, les constructions imaginaires que me livrent certains personnages de rencontre ou qui sont mes propres rêves, je pense qu'on fait bien la différence. Il y a le statut. Mais ils participent, disons, de l'aura qu'il y a autour de ces figures, de ces lieux. Ils servent peut-être à les approcher, à les construire. Ils disaient jusqu'où je vais. Par exemple, pour les Lamaï, comme il n'y avait presque rien, j'ai passé beaucoup de temps à fouiller dans les journaux de l'époque. Alors évidemment, elle est absente, je ne l'ai pas rencontrée, elle, nommément, dans ces journaux.
Ça mais, vous a déçu ?
Oui, dans un premier temps. Mais bon, après, il y a une sorte de vertige de l'enquête. Et au fond, je l'ai vue apparaître en arrière-plan. De tous ces journaux, de tous ces faits divers. Et d'une certaine façon, j'ai l'impression d'avoir pu me glisser dans sa tête, d'avoir vécu les journées là, que je décris, qui sont ces tout derniers jours dans Paris, d'avoir ressenti les mêmes choses, d'avoir pensé aux mêmes choses, l'actualité politique, artistique, tout ce qui se passait.
En fait, vous l'accompagnez par l'écriture. Vous êtes à côté d'elle dans la rue, à côté d'elle en train de rêver, en train d'imaginer sa vie. Vous la touchez presque. En tout cas, nous, lecteurs, on a l'impression qu'elle est là.
Je m'en approche le plus près possible. Mais évidemment, elle est aussi insaisissable.
Mais pas comme un biographe, pas du tout. Plutôt comme un compagnon.
Oui, il y a une part d'enquête biographique, mais c'est sûr, une succession de faits. Il y a une forme d'empathie. Un bon biographe, remarquez, c'est pas à vous que j'apprendrai cela, c'est aussi être capable quand même de se glisser dans la tête, de comprendre. Il y a une forme d'empathie nécessairement avec le sujet sur lequel on enquête.
Vous avez un côté Arsène Lupin.
Ah oui, tout à fait. Je lui dois énormément, vous savez. Énormément. Quand on lit attentivement les histoires d'Arsène Lupin, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus profond et riche, complexe, que souvent on peut croire. C'est une des figures qui m'a conduite pendant très très longtemps, depuis l'enfance. Je peux dire que j'ai appris à écrire, à rêver, à penser, à vivre à travers Arsène Lupin. Paris, cette figure de voleur de visage, de masque, amateur de cinéma qui apparaît aussi, qui donne certaines clés. Au fond, je suis d'une certaine façon un de ses disciples, un élève. Il ne se passe plus pas une année encore maintenant où je ne relis de trois de ses aventures.
Vous faites un métier dangereux parce que écrire ce que vous écrivez peut être vérifié. Et écrire les livres que vous publiez est toujours accompagné, et d'ailleurs dans le dernier, vous le précisez, est toujours accompagné de lettres que vous allez recevoir à la suite de la lecture de vos ouvrages. Vous en expliquez ainsi, je vous cite Didier Blonde. « Après la publication de chacun de mes livres, je reçois des lettres de lecteurs qui me rappellent plus que les réactions trop bienveillantes des personnes de mon entourage ou jusqu'à présent des critiques littéraires, qu'un public existe, invisible. Je découvre alors avec étonnement que c'est à lui, donc, que sans y penser, je m'adressais. Je suis toujours surpris qu'on me lise, encore plus que l'on se reconnaisse dans ce que j'écris. » Pourquoi ça vous surprend tellement ?
Parce qu'à ce moment-là, j'ai l'impression que personne ne peut s'intéresser à ce que je suis en train de faire. C'est vrai que je suis toujours surpris. Quand j'en parle, c'est vrai aussi. Mais vous savez, simplement, j'ai appris au fur et à mesure des années que quand j'invitais des gens à m'accompagner à une séance de cinéma muet, ils n'étaient pas très, très, très enthousiastes. C'est-à-dire, mes sujets, a priori, ne les attiraient pas énormément. C'est vrai que ça a changé un petit peu. Maintenant, il y a des pièces à conviction qui, parfois, leur fait prêter un petit peu d'intérêt. Mais non, au moment où j'écris, pas du tout. Pas du tout. C'est pour ça que les réactions, ça se passe là au moment de la publication et puis après, me surprennent, me dérangent parfois. En tous les cas, les lettres, les quelques lettres, la réaction de lecteur que je donne font partie aussi du travail de l'enquête, qui se prolonge. tu racontes quelque chose qui s'est produit, sur lequel je reviens dans ce livre. Tout à fait miraculeux, on pourrait dire. Après mon travail sur Suzanne Grandet, donc dans ce livre qui s'appelle Un amour sans parole, je ne vais pas raconter le détail, mais enfin je cherchais absolument à retrouver l'un de ses admirateurs qui avait laissé des textes sur lui, qui était mort depuis un certain nombre d'années. Elle étant mort en 1920. Mais lui, il avait vécu beaucoup plus longtemps et il a raconté un certain nombre de choses sur elle, il l'a rencontrée. Donc je cherchais absolument à rencontrer cette personne qui était devenue propriétaire du la petite stèle funéraire de l'endroit où elle est morte. Impossible de le trouver, parce que je voulais le trouver pour m'approcher encore un peu plus de Suzanne Grandet. C'était un maillon de la chaîne. J'ai, cherché partout, envoyé des avis de recherche, passé énormément de temps. Et puis, voilà, je me suis rendu compte, il était mort sans enfant, impossible de trouver qui que ce soit qu'il avait connu. C'était donc une sorte de figure un petit peu comme ça, obsessionnelle, dans laquelle je me projetais aussi, puisque c'était un admirateur de cette star. J'en avais pris mon parti. Une semaine après la publication du livre, je reçois un coup de téléphone d'une femme un peu âgée et qui me dit « Je viens de lire votre livre ». Le fameux, je l'appelle Jean D, il s'appelait André D, je donne que son initial. Il s'appelait bien Desmottes. Alors là, j'ai bien eu la preuve que ce n'était pas quelqu'un de farfelu. J'ai dit oui, je ne donnais pas le nom. Hein. Il me dit, mais je l'ai bien connu. Je l'ai bien connu. Alors ça a été évidemment incroyable. Donc on s'est rencontrés, elle m'a parlé de cet homme qu'elle avait très très bien connu. Voilà, un livre, c'est aussi ça, une sorte de bouteille lancée à la mer qui... Alors c'est un type de lecteur, de lectrice évidemment, tel qu'on peut en rêver, mais qui participe, continue, poursuit l'enquête qui reste toujours ouverte. Et c'est vrai que sur Leïla Maï, je me dis, c'est pour ça que j'en reparle, peut-être que j'aurai un retour de quelqu'un qui me dira « oui, j'ai des éléments ». Le lecteur, les réactions critiques ou bienveillante, en tous les cas, participe même de l'écriture du livre et du travail d'enquête, qui ne se termine jamais.
Les tombes, les caveaux à ciel découvert, abandonnés aux chats et aux feuilles mortes, ont quelque chose de rassurant. On n'y est pas seul, la famille s'y recompose, lentement rassemblée, pour le meilleur ou pour le pire. Les corps qui y sont déposés vieillissent à leur rythme, le temps de s'habituer à l'absence. On sait qu'ils sont là, à nous attendre. J'y ai ma place. C'est vous qui écrivez ça, Didier Blonde, dans votre dernier ouvrage. Vous avez choisi votre sépulture ?
Oui, sépulture familiale. Je l'appelle un peu ma petite maison de campagne, cimetière Montparnasse. Non, il y a rien de, je pense qu'il n'y a rien de macabre ni de morbide dans mes livres, pas du tout. Ce sont des lieux très, très apaisants, sereins. Les cimetières, oui, j'y ai ma place. Pas tout de suite, hein.
Bah, j'espère pas tout de suite. Le temps de publier encore de nombreux livres. En tout cas, merci pour le plaisir que vous nous donnez. Je rappelle que vous êtes l'auteur de nombreux livres. Je n'en citerai que quelques-uns. Les fantômes du muet, Faire le mort. Le dernier s'intitule Carnet d'adresse et d'autres. Le dernier s'intitule Leïla Maï 1932 et il vient de paraître aux éditions Gallimard. Merci à Philippe Bredin, Corinne Amar, Élodie Royer, Julien Rosa et Didier Lagarde. Vous écoutez France Culture. Bonne fin de soirée.